Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner quiconque souhaite entreprendre une recherche rigoureuse.
Bonjour. Et oui, l'objectif, en fait, c'est de comprendre comment on peut passer d'une vague curiosité à un sujet de recherche vraiment béton.
Surtout à notre époque, hein, parce que l'information, elle déborde absolument de partout.
C'est clair, on est noyé.
Exactement. Et pour nous guider, notre corpus du jour est centré sur le chapitre 4 de l'ouvrage d'Abdoubieu Quessot. Ça s'intitule « De la recherche documentaire à la restitution, guide du jeune chercheur à l'ère de l'intelligence artificielle générative ».
Un livre vraiment essentiel, ouais, pour naviguer dans tout ce chaos.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Il y a un paradoxe frappant qui m'interpelle d'emblée.
Je t'écoute.
Pourquoi, avec toute l'information du monde au bout des doigts et des intelligences artificielles surpuissantes, ça n'a jamais été aussi difficile de formuler un simple sujet de recherche?
Ouais, c'est la grande question et la réponse, en fait, elle se trouve dans la psychologie même du chercheur et dans sa méthode. C'est pas du tout une question de technologie.
Ah bon? C'est pas la faute des algorithmes?
Pas du tout. L'auteur évoque d'ailleurs une citation historique qui est fascinante. Dès 1613, donc ça remonte, l'écrivain Barnaby Rich se plaignait déjà de, je cite, la multiplicité des livres.
En 1613.
Ouais, 1613, il disait que la population ne pouvait plus digérer cette abondance. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'infobésité, ce n'est pas nouveau du tout.
Donc, 4 siècles avant ChatGPT, on paniquait déjà à cause de trop de livres.
Exactement. Mais la différence, c'est que 4 siècles plus tard, l'IA générative a, disons, transformé cette abondance en une production synthétique, littéralement infinie.
C'est vertigineux quand on y pense. Avant, il fallait imprimer, transporter les livres, il y avait une friction physique.
C'est ça. Et aujourd'hui, c'est instantané. C'est pour ça que la source fait une distinction cruciale qu'on oublie souvent, la différence entre la recherche d'information et la recherche documentaire.
Ah oui, dans le langage courant, on utilise le même mot. On dit juste, je cherche un truc.
Voilà. Sauf que c'est très différent. La recherche d'information, elle se clôt sur une réponse précise, genre trouver l'horaire d'un train ou un taux de change.
D'accord, donc c'est factuel. Tu as la réponse, l'action s'arrête.
C'est exactement ça. Alors que la recherche documentaire, ça vise des documents structurés, ça nécessite une vraie stratégie, et c'est par nature itératif. Tu n'as jamais une seule réponse définitive.
C'est un peu comme la cuisine en fait. La recherche d'information, c'est chercher à quelle température cuire un œuf. Tu trouves 100 degrés, super, c'est fini.
Belle analogie, ouais.
Alors que la recherche documentaire, ce serait plutôt vouloir comprendre la chimie de la cuisson pour inventer une nouvelle recette. On ne s'arrête que lorsqu'on a atteint ce que le texte appelle la saturation.
La fameuse saturation. C'est le moment où, en fait, tes nouvelles lectures ne font que confirmer ce que tu sais déjà. L'IA ne sait pas faire ça. Seul l'humain peut dire stop, j'en sais assez.
D'accord. Mais du coup, si cette recherche documentaire est une quête si complexe, qui ne s'arrête jamais vraiment d'elle-même, qu'est-ce qui la déclenche au tout début?
Eh bien, c'est l'apparition d'un besoin. Mais attention, ce besoin, c'est un piège.
Un piège. Comment ça?
Selon les professionnels de la documentation, le besoin d'information, c'est la nécessité de combler une lacune, une anomalie dans ce qu'on comprend du monde.
Ok, il nous manque une pièce du puzzle.
Voilà. Et là, on touche à un concept clé du livre qui vient de Nicholas Belkin en 1982, le modèle de l'état anormal de connaissance. On l'appelle le modèle ASK en anglais.
ASK, d'accord. Et ça dit quoi concrètement?
Ça explique le paradoxe fondamental de la recherche. Pour bien chercher dans un système complexe, il faudrait déjà avoir les bons mots-clés, la bonne structure.
Ouais, il faut savoir ce qu'on cherche.
Non, parce qu'on ne sait pas. Notre connaissance était dans un état anormal.
Ah, le serpent qui se mord la queue.
Totalement. Au début, le besoin est hyper diffus, c'est inexprimable. Ce n'est pas encore des mots-clés, c'est juste une frustration intellectuelle.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si notre esprit est dans le flou, n'est-ce pas justement merveilleux d'avoir une IA générative à qui l'on peut poser une question vague pour qu'elle fasse le tri à notre place?
Et c'est là le plus grand danger selon l'auteur, vraiment.
Vraiment, c'est pas une aide.
Non, parce qu'une IA, elle répondra toujours, même à une question hyper mal posée, même si la science n'a pas la réponse.
Elle va inventer une cohérence, c'est ça.
C'est ça. En acceptant la réponse d'une IA à un besoin qui est encore flou dans ta tête, tu te laisses imposer ce que le livre appelle le cadrage de la machine.
Le cadrage de la machine. Donc la machine pense à ma place.
Absolument. Tu confonds la disponibilité immédiate d'une réponse avec sa pertinence réelle par rapport à ton problème de départ.
Waouh !
Si l'on relie ça à la situation globale de notre époque, formuler son besoin avant d'ouvrir la moindre machine, de taper la moindre requête, c'est vraiment le seul moyen de conserver son autonomie intellectuelle.
Il faut accepter de souffrir un peu dans le brouillard au début, en fait.
C'est exactement ça. Gribouiller sur un bout de papier avant de demander à ChatGPT.
Bon, alors, admettons, j'ai accepté mon besoin flou, je refuse de me laisser dicter ma pensée par un algorithme, comment je fais, concrètement, pour sculpter ce brouillard et en faire un vrai sujet de recherche?
C'est là qu'intervient la méthode. Et l'erreur classique, surtout chez les débutants, c'est de confondre une grande thématique avec un sujet.
Genre dire « je vais travailler sur la démocratie ».
Voilà. Ou « l'éducation en Afrique ». C'est pas un sujet, ça. C'est un océan. Tu vas te noyer. L'ouvrage détaille ce qu'on appelle les filtres de circonscription. C'est un entonnoir, en fait.
Un entonnoir. On peut le travailler ensemble avec un exemple, histoire de visualiser ?
Avec plaisir. Prenons ton idée de la démocratie. Le premier filtre, c'est le domaine disciplinaire. Est-ce que tu fais du droit public ou de la sociologie politique ?
Disons la sociologie politique.
Ok. Ensuite, la thématique précise. Tu étudies le financement des partis ou la participation citoyenne.
La participation citoyenne, c'est plus concret.
Très bien. Troisième filtre, le terrain. Le monde entier, impossible. Le Sénégal entier, trop vaste. Tu as des réalités rurales et urbaines trop différentes.
Donc, je dois réduire encore. La capitale, Dakar.
Parfait. Ensuite, la période. Le filtre temporel est crucial. Tu ne peux pas comparer les années 90 avec l'ère de TikTok.
D'accord. Alors disons, de l'élection de 2012 jusqu'aux tensions de 2023.
Et enfin, la méthode, la cible, les jeunes de 18 à 25 ans. Tu vois, on est passé de la démocratie, un truc immense, à la participation électorale des jeunes dakarois de 18 à 25 ans entre 2012 et 2023.
Ah ouais, le changement d'échelle est radical. Ça tient sur une carte de visite maintenant.
Et c'est indispensable. Sans ça, tu tombes dans des pièges que la source énumère très clairement.
C'est quoi ces pièges ?
Bah, le premier, c'est le sujet panoramique, celui qu'on vient d'éviter. Vouloir étudier un programme d'institution entière, par exemple.
Le truc impossible à finir en une vie, quoi.
Exactement. Le deuxième, c'est le sujet saturé.
Saturé. C'est quand tout le monde en a déjà parlé.
C'est ça. Le terrain a été tellement retourné qu'aucune donnée nouvelle ne changera les conclusions. C'est déprimant pour un chercheur.
J'imagine, oui. Et le troisième ?
Le sujet infaisable, souvent le plus frustrant. L'idée est géniale, mais le terrain est inaccessible, ou alors les données sont confidentielles.
À genre étudier le budget secret de l'armée. Bon courage.
Voilà. Et enfin, le quatrième piège, hyper d'actualité, le sujet militant.
Le sujet militant, c'est-à-dire quand on utilise la recherche pour prouver qu'on a raison politiquement.
C'est exactement ça. C'est quand ça compromet ce qu'on appelle... la neutralité axiologique.
Ah, le grand concept de Max Weber.
Oui, il faut toujours rappeler que la science décrit ce qui est et non ce qui devrait être. Elle n'a pas de parti pris.
Mais c'est dur, non ? On est humain, on a des passions, des indignations. On ne peut pas être des robots froids ?
Bien sûr que non. L'indignation, c'est souvent ce qui te pousse à choisir un sujet. C'est ton rapport aux valeurs. Mais une fois que tu appliques ta méthode, tu dois suspendre ton jugement. Sinon, tu n'es plus chercheur, tu es porte-parole.
C'est une nuance hyper importante, ouais. Mais pour éviter tous ces pièges, l'entonnoir, l'infaisabilité, l'auteur insiste beaucoup sur un point précis, le rôle irremplaçable de l'humain.
Tout à fait. Le directeur de recherche, notamment.
Parce qu'une IA ne peut pas faire ça, hein. Proposer un bon sujet...
L'IA va te proposer des titres de thèse qui sonnent incroyablement bien. Mais elle ignore totalement les contraintes concrètes du terrain.
Genre quoi ?
Bah, par exemple, au Sénégal ou dans l'espace CAMES en général, tu peux avoir des réalités administratives, des difficultés d'accès aux bibliothèques locales ou juste le budget de l'étudiant. L'IA s'en fiche de ça.
C'est vrai, elle n'a pas conscience de la vraie vie.
Le directeur, lui, ancre le sujet dans le réel. Il adapte le sujet à la trajectoire de l'étudiant.
Ok. Donc, grâce au directeur, notre sujet est bien délimité. On a notre sujet sur les jeunes dakarois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, pour notre recherche quotidienne ? Face aux documents, on est prêt à taper ça dans un moteur de recherche ?
Pas encore. Il faut faire l'ultime bascule. Passer du sujet circonscrit à la question de recherche.
C'est pas la même chose.
Question de recherche, ça donne un angle, une trajectoire.
Ça devient interrogatif, du coup.
Voilà. Ça donne par exemple « Dans quelle mesure l'alternance de 2012 a-t-elle modifié la participation électorale des jeunes urbains Paris ?»
Ah, le « dans quelle mesure » Ça change tout, ça crée une tension.
C'est cette question précise qui va orienter ta quête de documents. Et c'est là que la technique entre en jeu.
Oui, la fameuse algèbre des mots-clés. Parce que si tu tapes la phrase entière dans une base de données universitaire, il se passe quoi ?
Ça s'appelle le silence documentaire. T'auras zéro résultat parce que le moteur ne comprend pas la syntaxe complexe.
Et à l'inverse, si je tape juste « jeune » et « élection »
Là, c'est le bruit documentaire. Tu vas avoir des millions de résultats. Des élections de délégués de classe au Japon jusqu'à la sociologie politique.
L'enfer.
Totalement. C'est pour ça qu'il faut jongler. Utiliser des mots-clés spécifiques, d'autres génériques, et se servir des opérateurs booléens, comme le « et », le « ou », le « sauf », pour croiser les concepts.
C'est vraiment de la stratégie. Mais admettons, on a fait la bonne équation, les documents apparaissent à l'écran. C'est gagné.
Eh bien, cela soulève une question cruciale aujourd'hui.
Oula, je sens venir le problème lié à l'IA.
Exactement. C'est une question de survie face aux hallucinations de l'IA.
Les hallucinations, c'est quand l'IA invente complètement les trucs, c'est ça?
Oui, et elle le fait avec un aplomb terrifiant. Pour identifier un document aujourd'hui, le titre ou le nom de l'auteur, ça ne suffit plus du tout.
Attends, vraiment, Ellie, elle peut inventer un faux article de recherche qui a l'air vrai?
Totalement. Elle va te citer un vrai prof de l'université Cheikh Anta Diop, inventer un titre hyper pertinent et dire que c'est paru à la page 42 d'une vraie revue de 2021.
Mais c'est diabolique. Si on ne lit pas la revue physique, comment on sait que c'est faux ?
C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des identifiants uniques. C'est l'antidote ultime contre les fausses références. Le plus connu, c'est le DOI.
Le DOI, le Digital Object Identifier.
C'est ça, c'est pas juste un lien web qui peut mourir avec une erreur 404. C'est une empreinte cryptographique pérenne. Quand t'as un DOI, tu le rentres sur le site doi.org et ça te renvoie vers la source certifiée.
D'accord. Donc, si l'IA a inventé le DOI, le site va juste me dire « ce document n'existe pas ».
Exactement. Ou alors, ça va te renvoyer vers un article sur la biologie des crustacés et tu sauras que l'IA a juste pioché une suite de chiffres au hasard.
C'est génial. Et ça marche aussi pour les auteurs humains, parce que s'il y a des homonymes ou des faux profils...
Oui, il y a le pendant pour les chercheurs, ça s'appelle leur CID.
O-R-C-I-D.
C'est ça, c'est un matricule unique qui scelle l'identité du chercheur. C'est le seul moyen d'isoler la vérité factuelle face au bruit généré par les machines.
Eh ben, ça demande une rigueur hallucinante. Si je résume un peu notre exploration, la recherche documentaire, c'est pas juste taper une requête à la hâte.
C'est même tout le contraire.
C'est accepter le chaos cognitif du départ, le fameux besoin diffus. Résister à la facilité des réponses immédiates des IA, utiliser un entonnoir humain avec un prof de préférence pour définir un sujet précis, et enfin traquer la vérité avec des identifiants uniques comme le DOI.
Tu as parfaitement résumé la méthode. C'est laborieux, mais c'est la seule voie vers la véritable découverte.
Et ça m'amène à une pensée finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent.
Je t'en prie.
Si nos outils technologiques deviennent un jour tellement performants qu'ils arrivent à formuler nos besoins d'information à notre place, avant même que nous en prenions conscience, ne risquons-nous pas de perdre ce fameux état anormal de connaissance ? Parce que sans cette sensation de manque, sans cette frustration intellectuelle du départ, l'être humain sera-t-il encore capable de connaître la joie vertigineuse de la véritable découverte ?
C'est une question vertigineuse, en effet. Si on ne cherche plus, est-ce qu'on découvre encore ?
La question reste ouverte. Merci beaucoup pour cet éclairage fascinant.
Merci à toi, c'était un plaisir.
À très bientôt pour un nouveau décryptage.